qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de célébrer la résurrection de Jésus un peu avant l'heure. Et donc, je veux dire à chacun une joyeuse fête de Pâques, une joyeuse fête de la résurrection et beaucoup, beaucoup d'allégresse dans le cœur par rapport à cette extraordinaire fête. Alors, nous allons passer quelques instants dans la lecture de la Bible et nous allons lire le passage, le premier passage qui a été évoqué lors de ce culte dans Apocalypse chapitre 1er, 9 à 18, où il est écrit « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Vous y avez déjà certainement pensé, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous faire cette réflexion, c'est que un hôpital, par exemple, c'est un lieu quand même très paradoxal. Parce que c'est un lieu où il peut se passer beaucoup de choses positives et en même temps beaucoup de choses négatives. C'est un lieu un peu entre les deux. On sait que l'hôpital, c'est un lieu souvent de négatif, un lieu de tristesse. On n'est pas content d'y aller, soit pour soi-même, on n'est pas content d'y aller pour voir un malade. Mais aussi, il n'y a rien à faire. L'hôpital, souvent, nous fait penser à la mort parce qu'on sait aussi que il y a pas mal de gens qui terminent leur vie dans un hôpital et qui arrivent à la fin de leur vie dans un hôpital. Et en même temps, l'hôpital, c'est un lieu paradoxal parce que ça renvoie aussi à la joie, quelque part. Puisque c'est là, notamment, que des milliers et des milliers de bébés naissent chaque jour, des milliers de femmes accouchent dans la joie, sont contentes. C'est un lieu de naissance aussi, c'est un lieu de réjouissance où les vies débutent, où les vies commencent. C'est un lieu où les vies terminent, mais aussi un lieu où les vies commencent. Alors, il fut un temps où les femmes accouchaient chez elles, mais maintenant, on sait que la majorité des femmes accouchent à l'hôpital. Et donc, c'est quelque chose de particulier. L'hôpital, c'est un lieu de vie, et en même temps, c'est un lieu de mort. Et quelque part, c'est une réalité qui nous rapproche très fort de la Pâque, parce que la Pâque aussi, c'est une fête de la vie et une fête de la mort. C'est dans une même fête, dans un même événement, où l'on célèbre la vie et où l'on célèbre la mort. Et cela est vrai pour la Pâque juive que Benoît a rappelé tout à l'heure. La Pâque juive était déjà une célébration en même temps de la mort et une célébration de la vie. C'est une fête dans laquelle des gens sont morts, dans laquelle la mer a englouti l'armée d'Égypte. Mais c'est en même temps une fête dans laquelle il y a eu la vie, la liberté, la vie est venue dans cette fête. Et nous aussi, au cours de cette semaine, la semaine sainte, n'est-ce pas ? J'espère que vous savez que c'est comme ça qu'on l'appelle. Nous entrons dans la semaine sainte. Eh bien, c'est une semaine aussi qui a ces deux couleurs. Une semaine de mort et une semaine de vie, où nous allons commémorer la mort de Christ. Jésus est mort, il a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Nous allons commémorer la résurrection de Christ. Jésus a brisé les liens de la mort, il a brisé les verrous de la mort, il a quitté la mort et il est vivant pour toujours. Dans le texte qu'on a lu, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui parle, et il explique qu'alors qu'il est dans l'île de Patmos, il est saisi par l'Esprit de Dieu, et il entend une voix derrière lui qui lui parle. Il se retourne pour voir qui lui parle, et il voit Jésus le ressuscité. Et certainement que dans vos Bibles, parfois, en tout cas souvent, cette partie du texte est titrée justement « Vision du ressuscité ». Jean voit le ressuscité. C'est un événement qui se déroule le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, nous dit le texte. Et le jour du Seigneur, c'est donc situé dans le temps, le jour du culte, le jour de la célébration, le jour pour Dieu. Jean voit le ressuscité. Il nous est dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Il nous est dit que ses yeux étaient comme une flamme ardente. Que ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir du creuset, et que son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Même nous ici, on n'arrive pas à imaginer ce que Jean a vu. Son visage brillait comme le soleil au plus haut de son éclat. Il voit le ressuscité dans sa gloire. Et cette vision, elle a toute son importance parce qu'elle permet à Jean de se situer ou de garder en tête qui va lui parler. Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a tout un ensemble de chapitres dans l'Apocalypse dans lesquels Jésus va parler à Jean, dans lesquels des choses vont être montrées à Jean. Et quelque part, avant même d'entrer dans toutes ces révélations que Jean va avoir, Jésus se présente à lui. Jésus rappelle à Jean qui il est. Jésus vient se montrer cette fois-ci, pas seulement ressuscité, mais cette fois-ci dans la gloire, glorifié, exalté. Il vient se présenter à Jean au tout début de l'Apocalypse, au tout début de ce chemin de révélation dans lequel il est, pour que Jean puisse avoir une pleine conscience de qui il est et que Jean puisse avoir une pleine compréhension du niveau de gloire à laquelle Jésus est désormais attaché. Il nous arrive très souvent de perdre de vue la gloire de Jésus. Il nous arrive très souvent de ne pas nous rendre compte que ce Jésus dont nous parlons est un Jésus ressuscité, qu'il est un Jésus glorifié, qu'il est un Jésus magnifique, qu'il est un Jésus glorieux. Très souvent, et j'entendais encore pas longtemps quelqu'un, il y a pas longtemps quelqu'un qui disait ça, quelqu'un qui avait fait une bonne chose, et puis après la personne à côté lui dit ah oui, mais c'est bien ce que tu as fait, le petit Jésus va te récompenser. Hein? Et donc il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui voient ça comme ça, le petit Jésus dans sa crèche, le petit Jésus tout mignon avec des petits. Ce petit Jésus n'est plus, ce petit Jésus a grandi, il est mort et il est ressuscité. Et désormais, il est glorieux, il est resplendissant de gloire. Alors il arrive évidemment que les gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui ont une image un peu du catéchisme disent « ben voilà le petit Jésus ». Mais plus souvent encore, il arrive que nous les chrétiens, nous ayons encore une vision du petit Jésus. Et quand nous parlons de Jésus, nous perdons un petit peu de vue de qui on parle. On se dit « Ah bah oui, Jésus !» Et on ne se rend pas compte que l'on parle de celui qui est glorieux. Nous oublions parfois que c'est ce Jésus glorieux, magnifique, qui est présent au milieu de nous, lorsque nous nous rassemblons. Nous oublions parfois que c'est ce Jésus glorieux, magnifique, de gloire et d'éclat, qui nous appelle à le suivre. C'est ce Jésus qui t'appelle, c'est ce Jésus qui nous appelle, ce Jésus glorieux, magnifique. Nous oublions parfois que c'est ce Jésus glorieux, magnifique de gloire, dont nous sommes appelés à parler aux autres. Quand on dit « Ah, nous devons témoigner », nous ne témoignons pas d'un petit Jésus apeuré, malingre, limité, faible, impuissant. Nous parlons du Jésus glorieux, du Jésus éclatant, du Jésus qui règne. Nous oublions parfois que c'est ce Jésus glorieux dont nous sommes les représentants, ce Jésus qui a vaincu le tombeau, il a vaincu la mort, eh bien c'est ce Jésus dont nous sommes appelés à parler. Parfois, il nous arrive d'oublier que c'est ce Jésus glorieux aussi qui intercède pour nous. Parce que c'est ce que le texte dit, c'est qu'il est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Nous oublions que c'est ce Jésus-là, glorieux, que Jean a vu, qui est là au ciel et qui intercède pour nous. Nous oublions parfois que c'est ce Jésus qui nous tient dans sa main. Et quand il dit « Personne ne peut vous arracher de ma main », il sait de quoi il parle. Il est glorieux, il est victorieux, il est suprêmement élevé et il nous tient dans sa main, il tient nos vies dans sa main. Nous oublions aussi parfois que c'est ce Jésus glorieux qui est à la tête de l'Église. D'ailleurs, si vous voyez, en fait, dans ce texte, il nous est dit que Jésus marche au milieu des chandeliers et que les chandeliers représentent les sept églises. Et donc, en fait, l'image est censée nous montrer que Jésus continue actuellement d'être au milieu de ses églises. Il continue à veiller sur ses églises. Il continue à prendre soin de ses églises. Il continue à avoir le regard sur ses églises. Il continue à diriger son église. Nous oublions parfois que c'est ce Jésus glorieux que nous attendons, qui reviendra dans la gloire. Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, tout œil le verra. Et nous oublions aussi parfois que c'est ce Jésus vainqueur de la mort, ce Jésus vainqueur qui nous donne aussi sa victoire et qui nous rend vainqueurs. Et c'est ça qui nous rend parfois nous autres, enfin pas nous autres ici, mais les autres, qui nous rend parfois un petit peu Playmobil comme ça. Parce que nous oublions que c'est ce Jésus que nous représentons. Nous vivons parfois un christianisme qui est dépourvu de la vision de qui est Jésus. Nous disons Jésus, mais avec un cœur qui n'a pas cette vision-là. Et nous vivons comme des petits scarabées apeurés par le monde, apeurés par l'avenir, apeurés par les autres, apeurés par ce qui se passe autour de nous, apeurés par ce qu'il y a dans notre monde, alors que nous sommes ceux qui appartiennent à ce Jésus. Sortons donc de la honte de représenter Jésus. On voit que Pierre, il était honteux avant, au moment de la mort de Jésus. Il était honteux, il savait pas quoi dire. « Ah mais tu le connais, mais non, je le connais pas, mais de quoi tu parles ?» Il était honteux. Mais après la résurrection de Jésus à la Pentecôte, il était fier, il était heureux, il était rien ne pouvait l'arrêter, parce qu'il savait que c'était ce Jésus glorieux qui l'annonçait. Sortons de toute timidité lorsqu'il s'agit de parler de Jésus. Sortons de l'hésitation lorsqu'il s'agit de le prier, lorsqu'il s'agit de le louer, lorsqu'il s'agit de parler de lui. Et soyons heureux de connaître ce Jésus ressuscité. C'est un Jésus glorieux, c'est pas un Jésus dont nous devrions avoir honte, c'est pas un Jésus qui est apeuré, c'est pas un Jésus qui est rejeté, c'est le Jésus glorieux. Et cela est vrai aussi pour les enfants ou pour les jeunes au milieu de nous qui peut-être actuellement se disent quand on parle de Jésus, quand on évoque Jésus, les gens se moquent, les gens méprisent, les gens disent n'ayons pas peur, n'ayons pas honte, Jésus est le glorieux ressuscité. Soyons conscients de sa splendeur, n'ayons pas honte de marcher avec lui. N'ayons pas honte, un jour tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, dit le texte, et donc je rajoute, même ceux qui se sont moqués de lui, même ceux qui nous ont méprisés, même ceux qui disaient qu'on était tous des idiots, un jour tout œil le verra, et toute langue confessera qu'il est Jésus, à la gloire de Dieu. Ensuite, ce Jésus glorieux qui se présente dans la gloire, il va dire au verset 17, il va dire à Jean, ne crains point, n'aie pas peur. Peut-être que ça nous échappe quand on voit le texte, mais en fait il faut se souvenir que Jean est celui qu'on appelle le disciple que Jésus aimait. Il nous est dit qu'il reposait sur le sein de Jésus, qu'il était tout près de Jésus, qu'il vivait dans la proximité avec Jésus. Et là, bizarrement, on sent qu'il serait possible, dans cette circonstance, que ce Jean qui a été près de Jésus ait peur de Jésus et qu'il craigne tellement la gloire de ce qu'il voit est extraordinaire, tellement ce qu'il voit est magnifique, il pourrait être effrayé par la gloire de Jésus. Et donc Jésus s'approche de lui, il se présente dans la gloire, mais il lui dit « N'aie pas peur, Jean, n'aie pas peur. » En même temps, oui, je suis glorieux, oui, je suis grand, oui, je suis magnifique, mais en même temps, n'aie pas peur. N'aie pas peur de moi, n'aie pas peur de cette rencontre que tu fais avec le ressuscité dans la gloire. N'aie pas peur. Il nous arrive aussi, que nous soyons jeunes ou que nous soyons moins jeunes, d'avoir peur de nous approcher de Christ. Nous avons peur, nous trouvons qu'il est tellement saint, qu'il est tellement digne, qu'il est tellement grand, qu'il est tellement parfait, que nous avons peur de nous approcher de lui. Et c'est aussi le cas de beaucoup de gens autour de nous qui ne sont pas en fait contre Dieu, qui ne sont pas contre la foi, mais qui ont peur. Ils ont peur, ils se disent « Mais qui je suis moi, pour me présenter devant un grand Dieu comme ça, devant ce Jésus glorieux, mais qu'est-ce que je suis moi ?» Jésus nous dit « N'aie pas peur. N'aie pas peur de t'approcher de moi. N'aie pas peur de faire ce pas vers moi. N'aie pas peur parce que je t'accueille, parce que je veux te parler. » C'est ça qu'il lui dit « Je veux te montrer des choses, Jean. N'ayons pas peur. » Que nous soyons un enfant ici, il y a des enfants, ou que nous soyons un jeune, que nous soyons un plus âgé, que nous soyons quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et j'ai même envie de dire que nous soyons quelqu'un qui vit loin de Dieu, n'ayons pas peur de nous approcher de Jésus. N'ayons pas peur de faire le pas vers lui. Il nous accueille et il dit « Je suis le premier et je suis le dernier ». C'est-à-dire « Je connais toutes choses, je connais le passé, je connais le futur, je maîtrise toutes choses. N'aie pas peur ». Et parfois, quand on fait un peu la microscopie d'une église, vous n'avez pas l'air comme ça, mais plein de gens ont peur. Ont peur de Jésus. Ils ont peur de louer Jésus, ils ont peur de servir Jésus, ils ont peur de s'engager auprès de Jésus, ils ont peur de parler de Jésus. Et il nous rassure et il nous dit, n'aie pas peur, n'ayons pas peur de lui, qui que nous soyons, il nous appelle. Et c'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur, c'est parce que c'est lui qui nous cherche. C'est lui qui nous attend, c'est lui qui nous appelle. Et c'est lui qui nous dit, viens, viens vers moi. Il dit, je suis le premier et le dernier, il connaît toutes choses. Nous pouvons faire confiance à Christ lorsqu'il nous parle de la fin des temps. Nous pouvons faire confiance à Christ lorsqu'il nous annonce ce qui se passera dans les nations. Nous pouvons faire confiance à Christ lorsqu'il nous donne des instructions sur le futur. Parce qu'il est le premier et le dernier. Parce qu'il connaît toutes choses. Il connaît le présent, il connaît le futur, il connaît le passé, il maîtrise toutes choses. Nous pouvons lui faire confiance. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des bonnes idées sur le futur. Les syndicats ont des bonnes idées sur le futur. Les hommes politiques ont des idées sur le futur. Maintenant même, les scientifiques ont des idées sur le futur. Mais ils sont ni le premier ni le dernier. Jésus, lui, il est le premier et le dernier. Alors c'est un choix devant lequel nous sommes tous placés, de dire est-ce que je fais confiance à un humain mortel qui demain ne sera plus. La Bible dit qu'on est comme un souffle, qu'est-ce qui disait ça? Je ne sais plus, quelqu'un disait ça, mais en fait, quand on y pense, quelqu'un disait, mais en fait, vous savez qu'un caillot dans une de vos artères, une de vos veines, et vous n'êtes plus. Mais Jésus est le premier et le dernier. Il vit pour toujours, il vit pour l'éternité. Et nous pouvons lui faire confiance dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous parle, dans les évangiles, dans tout ce qu'il nous a dit de Dieu, tout ce qu'il nous a dit de lui. Nous pouvons lui faire confiance. Jésus dit au verset 17, « Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus annonce à Jean que par sa victoire contre la mort, il est celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il indique là qu'il a acquis un droit absolu sur la mort, un droit absolu sur le séjour des morts, qu'il a dans sa main la capacité de donner la vie et qu'il brise les verrous de la mort. La Bible dit même que Jésus est le Seigneur des morts et des vivants. Il est le Seigneur de toutes choses. Il est établi Seigneur tant sur ceux qui vivent que sur ceux qui sont morts. Par sa mort et par sa résurrection, il a acquis une domination sur le séjour des morts et sur la terre des vivants. Dans le chapitre 5, on peut le lire chez soi, dans le chapitre 5, il va plus loin parce qu'il montre qu'il a même reçu le droit d'ouvrir le livre, ce fameux livre, parce qu'il est l'agneau immolé, il a le droit d'ouvrir le livre qui contient toute la destinée de l'humanité. La Bible nous dit que la mort a été engloutie dans la vie. Par l'œuvre de Jésus, la mort a été engloutie dans la vie. La mort a perdu toute capacité à nous retenir. Elle a perdu toute capacité à nous effrayer. Elle a perdu toute capacité à nous maintenir sous son pouvoir. Nous sommes libérés de la mort. Nous sommes libérés de l'emprise de la mort. Nous passerons par la mort physique, mais nous ne connaîtrons pas la mort spirituelle parce que Jésus détient les clés de la mort et du séjour des morts. Cependant, dans la Bible, nous savons aussi que la mort, dans certains textes, la mort ne fait pas nécessairement référence ni à la mort physique, ni à la mort spirituelle. Il arrive souvent que dans la Bible, la mort fasse référence à tout ce qui entraîne une destruction de notre vie. Par exemple, il est dit que la convoitise engendre le péché et que le péché engendre la mort. Mais en réalité, lorsque le texte dit ça, le texte ne semble pas dire que lorsque nous péchons, nous mourrons immédiatement, mais le texte veut nous montrer qu'il y peut y avoir dans notre vie des puissances de mort à l'œuvre. Il peut y avoir dans notre vie parfois la mort, les ténèbres qui s'infiltrent dans des domaines de nos vies. Il peut parfois y avoir des domaines de nos vies qui meurent, qui se nécrosent, qui s'atteignent. Nous pouvons par exemple avoir de la mort dans nos relations. Parfois la mort peut s'inviter dans nos relations, peut effriter, détruire nos relations. Nos relations familiales, nos relations amicales, nos relations dans l'Église. Parfois, certaines choses peuvent tuer une relation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le dit. Cette relation a été tuée. Elle est morte. Donc la mort, il y a la mort, mais il y a toutes ces manières au travers de laquelle la mort peut s'immiscer dans nos vies. Parfois, on peut se retrouver dans des circonstances de vie où on voit la mort de notre espérance, la mort de notre espoir. Quand des gens arrivent au plus haut du désespoir, en général, c'est que l'espoir est mort dans leur vie. La perte de leur foi, la perte de leur zèle, la perte de leur enthousiasme. Comme chrétiens, parfois, nous pouvons avoir la mort dans notre vie spirituelle, notre vie de prière qui se détruit tout doucement, notre service qui se détruit tout doucement, notre sanctification qui commence un peu à mourir. Parfois, la mort peut même s'immiscer dans l'Église par le refroidissement. C'est comme ça que ça se passe vraiment. Quand on meurt, la première chose, c'est qu'on se refroidit. Et parfois, dans l'Église, la mort rentre aussi. On se refroidit tout doucement. On se refroidit dans notre vie de prière. On se refroidit dans l'amour fraternel. Ainsi qu'il est écrit, dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. On se refroidit dans la crainte de Dieu, on se refroidit dans l'engagement, et la mort, tout doucement, vient atteindre des petits domaines de nos vies. En fait, ce que la résurrection de Jésus nous enseigne, c'est que Dieu est capable de redonner la vie à tout ce qui est mort dans nos existences. Non seulement Dieu redonnera vie, nous ressuscitera au dernier jour, mais ce texte nous dit aussi, ou cet enseignement nous dit aussi, que Dieu est capable de redonner vie à ce qui est mort dans nos vies. Dieu est capable, dans ce qui est détruit de certains domaines de nos vies, Dieu est capable de remettre de la vie, de ressusciter, c'est ça ressusciter. Dieu est capable de redonner la vie, parfois même à des choses qui sentent déjà comme on disait de Lazare, « Oui, mais Seigneur, il sent déjà, c'est mort, là, ne t'occupe pas, il est vraiment mort, là c'est terminé. » Eh bien, Jésus est capable de redonner la vie même à ces domaines-là. Et peut-être qu'il y a aussi des domaines desquels nous sommes désespérés, où on se dit, là, les carottes sont cuites. Eh bien, que la résurrection de Jésus nous enseigne aussi que Dieu peut ressusciter des choses dans nos vies. Et parfois même des relations qui sont détruites. Dieu peut redonner vie. Parfois même des, je vais dire ça entre guillemets, hein, mais je le dis, parfois même des rêves. C'est-à-dire des choses qu'on se disait, ah bon, oh, ce serait bien si. On dit, oh, pff, Dieu est capable de redonner vie. Jésus est le maître de la vie. Il a dit, j'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. C'est le seul qui a pu prononcer cette phrase conjuguée de cette façon-là. J'ai été mort. On ne dit pas normalement j'ai été mort. Mais lui, il peut le dire. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je vis pour l'éternité. Je donne la vie pour l'éternité. Je suis le prince de la vie. Et je donne la vie, je suis le prince de la vie. Et même dans ce qui peut-être est mort au milieu de vous, je peux redonner la vie. Non seulement je peux sauver des gens qui meurent, qui sont perdus, je peux leur redonner la vie, mais dans ta vie, à toi chrétien, je peux aussi redonner de la vie. Je peux ressusciter des choses. Parce que je suis le prince de la vie. Et puis pour conclure, 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15, nous dit ceci. Car la charité de Christ nous presse, jugeant ceci, que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, sa mort nous a donné la vie. En Jésus-Christ, nous avons retrouvé d'une part une nouvelle vie. Nous pouvons marcher en nouveauté de vie, nous pouvons laisser notre vie d'avant, notre vie de ténèbres, et entrer dans la vie avec lui. Mais en Jésus-Christ, nous avons aussi la vie éternelle. Et ce texte nous dit très simplement, et c'est tellement bon de le rappeler, parce que sinon on rate le coche. Ce texte nous dit que Jésus a tout donné pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est complètement offert pour nous. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est la conséquence logique. Puisqu'il nous a tout donné, nous devons tout lui donner. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vivons pour Christ. N'ayons pas peur, il est ressuscité. On ne perdra rien à vivre pour lui. On peut perdre beaucoup de choses, à vivre pour de l'argent, à vivre pour les amis, à vivre pour... Mais on ne perd rien à vivre pour Jésus. Parce qu'il est vivant pour l'éternité. Vivons pour Christ, vivons pour lui, vivons pour sa gloire, vivons pour honorer son nom. Vivons pour lui en le suivant, en portant notre croix. Vivons pour lui en le servant avec énergie, avec capacité, avec nos capacités, avec nos forces. Vivons pour lui en laissant son amour nous guider vers les autres et aimer les autres. Vivons pour lui en donnant la priorité à notre relation avec lui. Jésus-Christ est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen.